Radio Okapi.
Le mandat de la MONUSCO renouvelé pour une année par les membres du Conseil de sécurité de l'ONU réunis hier vendredi à New York aux États-Unis d'Amérique. La résolution 2765 de l'ONU adoptée hier rappelle que les priorités de la mission onusienne en RDC restent la protection des civils, le désarmement, la démobilisation et la stabilisation, ainsi que la réforme du secteur de la sécurité. Un texte proposé par la France et la Sierra Leone est voté à l'unanimité par tous les autres membres. Les deux robots roulages ajoutés sur l'avenue de la justice commune de la Gombe à Kinshasa font partie des 8 robots roulages commandés par le gouvernement congolais pour notamment lutter contre les embouteillages. Thérèse Kirongozi, PDG du groupe Women's Technology, demande au gouvernement d'apurer les frais d'achat de ces robots avant le 31 décembre courant, date de la clôture budgétaire. Emmanuel Adukole, président de la Fondation Bill Clinton, est l'invité de Radio Okapi ce matin. C'est pour parler des actions entreprises par le gouvernement congolais pour améliorer les conditions des détenus dans les prisons de la RDC. Bonjour à tous. Le Conseil de sécurité de l'ONU renouvelle pour une année le mandat de la mission de l'Organisation des Nations Unies pour la stabilisation en République démocratique du Congo à travers la résolution 2765. Les priorités de la MONUSCO restent la protection des civils, le désarmement, la démobilisation et la stabilisation ainsi que la réforme du secteur de la sécurité. Ce texte proposé par la France et la Sierra Leone a été voté à l'unanimité par les membres lors de la réunion tenu hier vendredi à New York aux États-Unis d'Amérique. Blaise Ndongala Mayanda revient sur les temps forts de cette plénière.
Dans sa prise de parole, le Mozambique a affirmé avoir voté cette résolution pour manifester son attachement au peuple congolais en ce moment où les efforts diplomatiques sont menés dans la région pour restaurer la paix dans la partie est de la RDC. Maputo a cependant salué la mise en œuvre de ces textes et encouragé la poursuite de la collaboration entre le gouvernement congolais et la MONUSCO. Ce pays d'Afrique australe a également souligné l'importance de la redynamisation du processus de Nairobi pour résoudre une fois pour toutes la question des groupes armés qui écument la partie est de la RDC. Le Royaume-Uni a invité les parties en conflit à ne pas faire obstacle à la mission onusienne. La Chine, elle, a indiqué avoir toujours défendu le rôle que joue la MONUSCO pour le retour de la paix en RDC. Elle a à cette occasion encouragé Kinshasa et Kigali à poursuivre les négociations sous la houlette de Luanda. Pour leur part, la France et la Sierra Leone ont tour à tour salué le vote de cette résolution et disent apporter leur soutien au processus de Luanda. Il faut noter que la résolution 2765 est votée 5 jours seulement après l'annulation du sommet tripartite RDC-Rwanda-Angola qui devait juguler la crise dans la partie est de la RDC.
Et les États-Unis d'Amérique se félicitent d'avoir voté pour cette résolution 2765, renouvelant pour une année le mandat de la MONUSCO. Cependant, les USA se disent déçus de ce que plusieurs membres du Conseil de sécurité n'ont pas voulu inclure des formulations décrivant clairement le rôle du Rwanda dans l'est de la RDC. La représentante des États-Unis l'a dit hier à New York au cours de cette réunion du Conseil de sécurité. Elle se dit inquiète à cause des avancées du 1-23 soutenues par les forces rwandaises dans le Nord Kivu et la conquête des nouveaux territoires. Les propos de la représentante des États-Unis d'Amérique, interprétés en français, ont été recueillis par Alain Hirong.
En effet, nous devons prendre acte de la situation sur le terrain. En effet, en refusant d'appeler un chat, nous ne rendons pas service à la MONUSCO et au service au travers de l'humanitaire qui sont menacés par le brouillage du signal GPS, le déploiement d'équipements très sophistiqués dans l'est de la RDC par le Rwanda. En outre, nous ne rendons pas service également aux milliers de civils qui sont menacés par ces activités. Chers collègues, le monde attend du Conseil de sécurité de décrire les choses telles qu'elles sont, notamment lorsque ces éléments sont une menace pour la paix et la sécurité internationale. Nous sommes profondément inquiets par le signalement que nous avons reçu cette semaine d'avancée du M23 dans le Nord Kivu et la conquête de nouveaux territoires est soutenue par les forces de défense rwandaises. Nous appelons toutes les parties au titre du processus de Luanda de continuer à travailler à la mise en œuvre du mécanisme de vérification ad hoc renforcé. Nous regrettons que n'ait pas pu avoir lieu le sommet triangulaire sur la sécurité le 15 décembre. Ceci est une occasion ratée. Nous exhortons les dirigeants de la RDC et du Rwanda à se réunir à nouveau sous la houlette de l'Ouganda.
Sur le terrain en Nord Kivu, la police nationale congolaise sera renforcée ou consignée jusqu'au 15 janvier 2025. Elle aura pour mandat d'assurer une sécurité maximale des populations civiles et de leurs biens durant la période des fêtes de fin d'année, annonce hier du commissaire provincial de la police au Nord Kivu lors d'une parade policière. Pour lui, au vu de la situation sécuritaire précaire, il n'y aura pas la courtoisie routière durant ces festivités. Mais il appelle les policiers de roulage à rester tout de même courtois pendant leurs opérations de contrôle. Le commissaire divisionnaire adjoint Eddy Léonard Mukuna est dans ses propos recueillis par Bernard Danyangi.
Avec notre hiérarchie, nous avons fait en sorte que la police puisse remplir correctement les missions qui sont les siennes. Et aujourd'hui, nous arrivons à la fin de l'année. Nous avons pris des dispositions telles que les déploiements des hommes, le déploiement des équipements pour permettre à ce que la population du Nord Kivu puisse passer les fêtes de Noël et les bonnes années en toute quiétude. Nous ne pouvons pas décréter la courtoisie routière en ce moment ici parce que la situation dans laquelle nous vivons ne nous permet pas à ce qu'on puisse laisser les gens libres. Donc la courtoisie doit se voir dans le chef des policiers. Mais le contrôle va continuer. Vous êtes sans ignorer que nous sommes dans une province à problème où il y a la guerre. Nous avons peur qu'il y ait infiltration. Alors pour parer à toute éventualité, nous avons préféré ne pas décréter la courtoisie routière. La population va circuler, la population va sillonner sans entrave, sans problème. La population doit nous faire confiance. C'est la police congolaise.
Pendant ce temps, la situation sécuritaire dans le territoire de Lubero, caractérisée par l'avancée du M23 dans le sud du territoire, a été au centre des échanges jeudi entre une dizaine de députés provinciaux de la province du Nord Kivu et l'administrateur du territoire de Lubero. Ces échanges ont eu lieu à Lubero Centre, chef-lieu du territoire, qui abrite à ce jour plusieurs ménages de déplacés. Le colonel Alain Kiwewa, administrateur du territoire, a indiqué que l'activisme des ADF a également été abordé. Il explique au téléphone d'André Kitenge.
Nous avons eu une grande réunion jeudi dans la délégation des honorables députés provinciaux. Nous avons essayé de parler tout autour de la situation sécuritaire. Ils voulaient savoir quelle est la situation sécuritaire actuelle, connaissant la situation qui se passe au sud, la situation qui se passe également au sud avec l'armée rwandaise et ses supplétifs, les M23, et également dans le nord-est avec le terroriste EDF MTI. Au niveau du secteur de Bapere, nous avons échangé également en rapport avec la gestion de Wazalendo. C'est ça un peu la situation. Donc, je voudrais seulement profiter de votre micro pour essayer de sensibiliser d'abord cette population, les encourager également et les remercier également parce que je sais que cette population est avec nous. Donc, c'est-à-dire avec les autorités politico-administratives et également nos forces de défense et de sécurité.
En plus bref, ici à Kinshasa, notez que le professeur Kahindo Nguru Aristide, candidat unique, a été élu hier vendredi nouveau juge de la Cour constitutionnelle de la RDC par l'Assemblée nationale et le Sénat réunis en congrès extraordinaire et remplace ainsi Corneille Wassenda, arrivé fin mandat après 9 ans de service. Après le vote de la commission, il a été présenté aux députés et sénateurs avant sa nomination par le président de la République par ordonnance présidentielle. Lutte contre les embouteillages à Kinshasa. Le groupe Women's Technology vient d'ajouter 2 robots roulages sur l'avenue de la Justice dans la commune de Langombe. Ces 2 robots roulages font partie des 8 commandés par le gouvernement congolais. Toutefois, Thérèse Kirongozi, PDG de cette structure, demande au gouvernement congolais d'apurer les frais d'achat de tous ces robots avant le 31 décembre courant, date de la clôture budgétaire. Les détails avec Blaise Shindani Kambala.
Ces robots roulages sont placés l'un au croisement des avenues Libération et Justice. Ici, les embouteillages sont signalés chaque matin car ce périmètre compte beaucoup d'écoles. Le 2e robot est installé toujours sur l'avenue de la Justice mais à son croisement avec Batetela. Thérèse Kirongozi invite le gouvernement à payer la facture de ces 8 robots commandés avant la clôture budgétaire.
La facture n'est pas encore payée. Notre bon d'engagement se trouve au niveau du cabinet du ministre des Finances. Notre inquiétude est plus que d'ici le 31 décembre, on va faire la clôture budgétaire. Nous faisons confiance au gouvernement, mais nous avons besoin du paiement pour qu'on continue les travaux.
Concernant les nouveaux dispositifs mis en place par les autorités pour lutter contre les embouteillages à Kinshasa, Thérèse Kirongozi pense que cela ne résout pas le problème. Bien au contraire, ils mettent en danger les piétons qui traversent le boulevard.
Je ne suis pas d'accord avec ça parce que nous n'avons pas tenu compte des usagers les plus vulnérables, ce sont des piétons. Imaginez que vous avez déjà habitué à traverser la route en regardant à gauche, mais dans le même tronçon, on vous dit de regarder à gauche et à droite. Et surtout, il faut savoir que beaucoup de gens n'arrivent pas à voir l'information.
Elle précise que les 6 autres robots roulants sont déjà prêts. Ils seront placés dans d'autres carrefours dès que la facture sera apurée.
Dans la province de l'Équateur, des morts, des disparus et des rescapés. Sans autre précision, c'est le bilan provisoire du naufrage du MB Mamawechi qui est survenu jeudi vers 16h dans la province, bien sûr, sur la rivière Buzira. Selon le commissaire fluvial de Mbandaka qui confirme cette information, les voyageurs partaient du marché de Lingunda vers le village Lolo, situé à plus de 300 km de Mbandaka. Pour l'instant, Compétent Boyo estime qu'il est prématuré de dresser un bilan. Cependant, de son côté, Nesti Bonina, un notable de l'Équateur qui parle de plusieurs morts, condamne l'inefficacité des autorités et du secteur. Celles-ci prennent des décisions, mais qui ne sont pas respectées sur le terrain, dit-il. On l'écoute au micro d'Alain Hirong.
Encore un drame sur les eaux du Congo. Le convoi Mamawechi a chaviré sur la rivière Ikelemba en provenance du territoire de Bolomba. Avec un bilan provisoire de plus de 100 morts, nous condamnons encore avec la dernière énergie l'inefficacité des autorités du secteur avec des décisions prises que sur papier et restent lettres mortes. Les passagers montent sans gilet de sauvetage, il y a surcharge sur le convoi et les gens meurent au jour le jour. Les victimes sont principalement des commerçants des Mbandaka et de Bolomba. Mais pour l'instant, il n'y a aucun bilan officiel parce que nous attendons que nous puissions recueillir des infos sur le manifeste. Nous en appelons aux autorités compétentes de se saisir du dossier pour une meilleure prise en charge des rescapés et faire suivre avec des sanctions sur ceux qui devaient veiller sur l'application de ces mesures.
Nous poursuivons avec notre série sur la gestion des déchets et assainissement au Nord Kivu. Ce matin, nous parlons de l'Université de Goma qui développe un projet de valorisation des déchets dans la ville et ses environs en collaboration avec un incubateur de projets. Grâce à ses recherches, cette institution a relevé deux défis majeurs en matière de gestion des déchets. C'est notamment un déficit flagrant en matière de recherche scientifique et d'innovation technologique et environnementale et aussi un déficit en technologie durable de gestion et de valorisation des déchets. Pour y faire face, cette université s'implique dans la promotion des projets innovateurs. Sifa Maguro nous en parle dans ce reportage.
D'après le professeur Anselme Kitakia, doyen de la faculté de l'économie et coordonnateur de l'incubateur des projets à l'UNIGOM, son institution a pu sélectionner 15 projets qui considèrent les déchets comme des matières premières.
On essaie de chercher des techniques innovantes qui permettent de transformer ces déchets en biens utiles. Le premier projet consiste à la production et à la qualification d'un carburant à base de déchets plastiques. Le cinquième projet, c'est la valorisation des pulpes, des cerises, des cafés par la production du vin à Minova. Ce sont des déchets qui sont fréquents dans la ville et dans les environs.
Entre autres défis, ces chercheurs notent l'absence de financement des projets de recherche, d'où ce plaidoyer qu'ils font.
À un certain niveau, on a des prototypes, mais il se fait que nous devons passer au développement, à la phase de développement des entreprises. Et à ce niveau-là, ça demande beaucoup de moyens. Et nous appelons l'appui des différents partenaires.
Comme recommandation, ces scientifiques proposent la promotion de l'interaction entre les acteurs impliqués dans les domaines de la valorisation des déchets, y compris la société civile et les entrepreneurs, précise Anselme Kitakia. Goma, Sifa Maguru, Radio Okapi.
Actualité internationale. Le Sénat américain a adopté ce samedi 21 décembre un texte budgétaire qui évite de justesse une paralysie de l'État fédéral juste avant Noël. L'adoption s'est faite peu après l'heure limite de minuit, mais le bureau de la Maison-Blanche chargé de décréter un état de shutdown ne l'a finalement pas fait en raison de l'imminence du vote au Sénat. Si la Maison-Blanche avait décrété ce shutdown, il y aurait eu chômage technique pour des centaines de milliers de fonctionnaires, le gel de plusieurs aides sociales ou encore la la fermeture de certaines crèches, une situation extrêmement impopulaire auprès des Américains, d'autant plus c'est la fête des fins d'année.
L'invité.
En RDC, le gouvernement congolais fournit des efforts pour améliorer tant soit peu les conditions des détenus dans les prisons. À Makala, par exemple, ici à Kinshasa, la population carcérale est passée de 15 à 9 000, selon Emmanuel Adoukolé, président de la Fondation Bill Clinton. Quel bilan dressé de toutes les actions entreprises par le gouvernement congolais pour améliorer les conditions dans les prisons de la RDC? Emmanuel Adoukolé, président national de la Fondation Bill Clinton, est notre invité et répond à cette question et à d'autres dans cet entretien avec Jody Daniel Kachama.
Emmanuel Adoukolé, président national de la Fondation Bill Clinton. Vous avez dit que le ministre Mutamba a fait des gros efforts, mais il y a encore beaucoup à faire.
Il y a des taux catastrophiques dans toutes les prisons en RDC et des détentions de cachots, sans parler des cachots clandestins à laquelle nous avons placé. Mais il faut aussi signaler que le ministre d'État, son excellence Constant Mutamba, a été de faire l'effort. Mais beaucoup reste à faire dans le domaine d'accélération de procédures judiciaires, le mettre fin à la restriction arbitraire, l'amélioration de conditions de vie des prisonniers et aussi les soins médicaux, parce que beaucoup de prisonniers sont passés de quitter les lieux de cellules pour aller être fait soigner à l'extérieur. Le cas de Madame Denise Bokendi, qui est plusieurs fois demandé pour aller faire soigner, mais sans autorisation, alors qu'un prisonnier a un droit comme tout le monde. Il y a aussi votre confrère Mike Mokabai qui aussi souffre. Il a demandé pour aller faire soigner sous la demande de son médecin. Jusqu'à aujourd'hui, il n'est pas autorisé. Je ne parle pas de l'honorable Jean-Mike Aboun. Il était malade, mais lui, il préfère appeler son médecin pour le traiter au niveau de prison. Donc, nous avons beaucoup de cas. Le ministre a fait un effort. Il a commencé de 15 000. Maintenant, nous sommes au-delà de
9 000 prisonniers.
9 000 prisonniers.
Alors, quel bilan vous faites de toutes les mesures, les décisions qu'il a prises pour désengorger la prison et pour faire respecter les droits des prisonniers?
Comme j'avais dit, le ministre a bonne volonté, lui-même c'est un artiste des droits de l'homme, il a médité à l'époque avec nous ensemble, et elle connaît les souffrances, les arrestations arbitraires, des cachots clandestins et tout, mais ce n'est pas facile. Mais ce qui est vrai, c'est-à-dire, à l'heure actuelle, même avant que le ministre donne l'ordre pour qu'on a interdit de ne pas amener les détenus en prison, tous les cachots de paquets, d'amigo, de cachots clandestins étaient prêts. Donc, ce n'est pas parce que si le cachot aujourd'hui est prêt, on donne les raisons à laquelle c'est le ministre qui avait interdit de ne pas amener des gens en prison. Non! Avant même, le ministre donne l'ordre, tout le cachot s'était prêt.
Alors, vous avez dit d'abord, il a pu réduire la population carcérale de 15 000 à 9 000.
9184.
C'était au total 15 000.
Oui,
on est parti de 15 000.
Plus de 15 000.
Plus de 15 000 à 9 000.
Oui, à 9 000 quelques, oui.
Donc il y a quand même une évolution positive.
Oui, il y a une évolution positive, mais il y a aussi les conditions de détention est très précaires parce que le matelas à laquelle on a fait beaucoup l'écho n'était pas distribué aux prisonniers et tout était brûlé pendant l'incident du 1er au 2 septembre. Donc, jusqu'à aujourd'hui, les prisonniers dorment.
Ils dorment même les sols.
Les sols. Donc, rien n'a changé. Aucune condition favorable qu'on peut dire parce que le ministre a mis le matelas. Le matelas n'était pas distribué jusqu'à les jours où il y avait l'incident et tout ce matelas était brûlé.
Et pourquoi on n'avait pas distribué ce matelas?
Bon, le ministre voulait savoir l'information d'aménager un peu les prisons, nettoyer avant de distribuer
les matelas.
Les matelas. Mmh. Mais hélas, et jusqu'à aujourd'hui, on nous a promis des enquêtes. Bon, l'enquête pertinente, on ne sait pas si c'est quand, mais il y a entre temps, il y a les femmes qui sont violées, sans soins, et ils sont là. Nous avons fait les plaidoiries pour que...
Il y a même d'autres femmes qui sont grosses aujourd'hui, après les viols massifs qu'il y a eu.
Tout à fait. Nous avons tant d'informations pour des ventes qui sont grosses. Il y a certaines qui ont pris les médicaments pour enlever, mais ce n'est pas tenu. Mais jusqu'à aujourd'hui, il n'y en a pas un soin vraiment adéquat qui est entaminé pour soigner ces femmes-là qui ont été victimes de viols.
Monsieur Manuel Adukole, président national de la Fondation Bill Clinton, merci.
C'est la fin de ce journal présenté par Noëlla Luzitu Kabambi et mis en onde par Polydor Basunga, le tout supervisé par Alain Irung. Merci de nous avoir suivis.